que le rebond du jour sur le CAC 40 s'est fait dans de relativement faibles volumes d'échanges. Si ce ne sont les gros volumes sur Total Energy, la flambée des prix des matières premières fait craindre plus globalement un tassement de la croissance et une baisse des profits des entreprises. C'était Marjorie Ancelot d'Investir.fr.
Merci Marjorie. Une équipe de cinéma sur la Station Spatiale Internationale, une capsule russe est arrivée tout à l'heure. Elle s'est arrimée à l'ISS. À son bord, un réalisateur et une actrice russe qui souhaitent devenir les premiers à réaliser un long métrage tourné dans l'espace. Cette initiative est aussi un moyen de devancer les États-Unis qui avaient un projet similaire.
Tous les jours, Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens.
Radio G.
101.5 FM.
Le Grand Ouest Festival.
Du 24 septembre au 16 octobre 2021, le Centre Dramatique National Le Quai, à Angers, ouvre sa saison avec un tout nouveau rendez-vous, le Go Festival.
Après de longs mois de silence, le CDN vous invite à trembler ensemble avec ce concentré de spectacles vivants et vivifiants.
23 propositions de théâtre,
cirque,
danse,
musique
et autres performances présentées au Quai et dans 8 autres lieux de l'agglomération angevine.
Le Grand Ouest Festival, première édition du 24 septembre au 16 octobre 2021.
Informations et réservations sur lequai-angers.eu.
h 10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
Je sais qu'ils m'écoutent actuellement, ils me l'ont demandé, donc je le fais, dédicace au 6e du collège Saint-Lô des Ponts de C. Ils font un atelier web radio, ils sont venus visiter Radio G ce midi. Voilà, donc coucou à eux. C'est Topette, c'est 50 minutes d'agitation locale et culturelle. Et aujourd'hui, on recevra Stéphane Martin, le programmateur du Shabada. Le Shabada, cette célèbre salle de concert qu'on connaît tous sur Angers. Il va nous faire le point sur l'ouverture de la saison après 18 mois de fermeture quand même. On entendra aussi Émilie pour son croque philo. Elle va arriver en cours d'émission. Et déjà avec nous, présent dans ce studio, nous avons Waldo. Ça va Waldo?
Ouais, carrément.
T'es chaud là pour ton deuxième épisode du Phare?
Ouais, ouais, et cette fois-ci je vais le faire en direct, donc je suis tout content.
Oh, si tu vas assurer, hein, la performance sera au niveau?
Oh, bien plus.
Bien plus, et bah c'est parfait. Pour réagir à cette émission, c'est sur mon Insta ou Twitter à PB Radio G.
18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît.
Et avant tout ça, cette semaine et la semaine prochaine d'ailleurs, Radio G est partenaire des semaines d'information sur la santé mentale. On accueillera d'ailleurs le collectif Angevin demain. En attendant, voici le deuxième podcast qu'ils ont réalisé. C'est la voix de Léa qu'on va entendre.
L'accès aux soins est l'un des droits fondamentaux de tout citoyen. Il peut se définir comme la possibilité offerte à chacun de prévenir la maladie ou de recevoir des soins sans discrimination. Rencontrer un professionnel de santé, c'est prendre en compte la santé de son corps et en même temps, c'est pouvoir exprimer l'inquiétude ou les angoisses que cela peut générer. On voit bien que la santé du corps est intimement liée à la santé psychique. Accéder à un professionnel de santé, cela nécessite les moyens d'accéder à ce soin, par exemple, avoir accès à des droits de sécurité sociale ou de complémentaire santé. Demander des soins suppose des capacités psychiques. En effet, une bonne santé psychique est nécessaire pour demander de l'aide au moment où l'on en a besoin. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'une personne présente une maladie ou un handicap psychique, elle peut être en difficulté pour solliciter de l'aide. Une personne qui semble aller mal, mais qui ne demande rien, risque de se retrouver en situation d'isolement, voire d'exclusion, avec un état de santé possiblement dégradé. Elle peut donc avoir besoin d'être accompagnée pour accéder à des soins. Les troubles psychiques peuvent impacter la capacité à gérer ses émotions dans certaines situations. Par exemple, attendre dans une salle d'attente avec d'autres personnes peut s'avérer difficile. Une sensibilisation des professionnels de santé à l'accueil de ces patients est en marche. Elle doit se renforcer pour faciliter le droit à l'accès aux soins des personnes en souffrance psychique. Le droit à l'accès aux soins s'applique aux soins physiques, mais aussi aux soins psychiatriques. Les établissements publics en santé mentale offrent un accès à des soins spécialisés. Pour la population du Maine-et-Loire, excepté les arrondissements de Cholet et de Saumur, le CESAM propose des dispositifs de soins adaptés à chaque âge de la vie, de la conception au grand âge. Ainsi, l'hospitalisation n'est pas la seule possibilité. Cela permet d'accompagner les personnes grâce à des soins personnalisés prenant en compte leurs besoins. Le CESAM travaille en partenariat avec d'autres acteurs de la santé et de la santé mentale.
Voilà, podcast proposé par le collectif organisateur des semaines d'information sur la santé mentale. Plus d'infos, rendez-vous sur le Facebook SISM49. Et du coup, les mardis, c'est aussi le rendez-vous de Sarah du compte Instagram Mangez-moi. Elle vous propose aujourd'hui de découvrir un restaurant angevin avec sa chronique On va où ? Et là, on parle de poupoule.
Salut, c'est Sarah du compte Instagram Mangez-moi. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel épisode de ma chronique, le OVO. OVO pour On va où ? Cette fameuse question qui revient systématiquement à chaque fois qu'une envie de convivialité et de bon temps est évoquée. Je vous partage mes bonnes adresses angevines et je vous donne les cartes pour adapter votre choix de lieu en fonction de l'occasion. Alors cette semaine, on va où ? Est-ce que vous entendez ?
Allez, venez, Milord, vous asseoir.
La voix d'Édith Piaf, les rires, le bruit, l'effervescence. Il y a eu Lip, les deux magots, Bouillon Chartier, le Café Flore, la Coupole. Ces grands noms qui ne doivent pas vous être inconnus. Et maintenant, il y a Poupoule, la brasserie française fraîchement ouverte Boulevard Foch qui vous fait décoller vers une autre époque. Ici, pas besoin de Woody Allen pour voyager hors du temps et atterrir dans les années folles. Tout y est, la décoration, l'ambiance et le menu. On s'attend à voir au coin de chaque table des femmes aux longs colliers de perles, des coiffures à cran, des porte-cigarettes, des hommes en costume trois pièces, des coupes à champagne qui s'entrechoquent. Quel plaisir de retrouver les classiques de notre chère gastronomie française et les bases d'Auguste Escoffier. Chez Poupoule, c'est donc de la cuisine simple et à l'ancienne. Qui peut encore se vanter d'avoir récemment mangé un poireau vinaigrette et une aile de raie à la grenobloise ? Quel bonheur ! Chez Poupoule, vous retrouverez tous les produits qui ont été boudés de nos cartes de restaurant depuis une bonne vingtaine d'années. C'est simple, copieux, bien assaisonné, de bonne qualité et goûteux. Tous les classiques y sont et on a envie d'y venir et d'y revenir pour tous les goûter. Une carte de Madeleine de Proust, de convivialité et de générosité. Le service est rapide et efficace et aussi chaleureux qu'un garçon de café parisien un 14 juillet. L'essence même de qui nous sommes et de ce qui nous compose et nous anime, nous Français. Le partage, la simplicité, la qualité, les produits de notre terre et la générosité. Cela fait un bien fou de temps en temps de retourner à la source et de se rappeler les plats de nos grands-parents. C'est dans ce genre d'endroit qu'on mesure la chance que l'on a de vivre dans ce si beau pays et de se souvenir. Poupoule, c'est au 35 boulevard du Maréchal Foch, tous les jours de la semaine, midi et soir. Les bons plans en resto, c'est sur mon compte Instagram, Mangez-moi.
Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma...
L'invité de Topette sur Radio G.
Stéphane Martin, bonjour, ça va ?
Oui, bonjour, bonjour à tous, ouais, ça va bien.
Ça faisait longtemps que tu n'étais pas venu dans ce studio.
Oui, bah les mois estivaux sont passés et me voilà de retour.
De retour pour nous annoncer de belles choses, parce que ça fait plaisir, enfin c'est le retour des concerts un peu partout et notamment au Shabada. Et justement, tu vas nous parler un petit peu du début de saison au Shab. Alors déjà, après 18 mois de fermeture quasi continue, ça ressemble à quoi la réouverture au Shabada ?
Ben, c'est étonnant parce que je me disais ça l'autre soir, est-ce que je me le suis dit à Tilassine ou pendant l'évitation, j'ai pas d'émotion particulière, j'ai pas la larme qui coule, ça y est. Non, c'est juste un retour à la normale et on a toujours suffisamment de choses à penser sur un concert quand on travaille dessus, vérifier que tout roule, qu'il n'y a pas de place pour l'émotion. Après, on est tous en train de se dire, ouais, c'est quand même cool d'être là. Ah ouais, c'est quand même cool. Et puis on voit le sourire des gens, on voit le sourire de l'artiste, on dit, bon, ça va, c'est cool. Donc les choses rentrent dans l'ordre en quelque sorte. Et peut-être qu'on peut imaginer effectivement qu'il y a une émotion particulière, mais non, pas du tout en fait. C'est juste, voilà.
C'est normal en fait.
On est juste dans le normal.
C'est voilà. comme revoir un vieil ami qu'on n'a pas vu depuis super longtemps. On a l'impression que le temps a brisé des choses, et en fait, pas du tout. On le revoit et c'est comme si c'était depuis hier qu'on.
Ah, c'est ça, reprend la conversation qu'on avait laissé tomber.
Qu'on s'était quitté et tout roule à nouveau. Donc,
C'est un peu ça. William Rosé, Tillassine, a fait un petit discours avant le début du concert et a été très attentif. En disant que ça lui faisait chaud au cœur en tant que musicien, et évidemment, puisque lui, il a quelque chose à partager et qu'il ne. Nous non plus, en public, on peut pas vivre, mais lui, c'est particulier. C'est les gens qui vont être réceptifs à son art et tout ça, donc il y avait une dimension de la part de il a jamais été aussi loquace, je crois que d'ailleurs le Courrier de l'Ouest l'a noté, William qui est plutôt un discret.
Lui était très très content de revenir, c'est ça.
Lui était très content, c'était sa première. C'est assez rigolo parce qu'en plus là, je déborde un peu sur le sujet, mais donc c'était la première de Tillassine de sa tournée, et donc fatalement il y a de l'émotion. Et vendredi soir, on va accueillir la première de la tournée de Gaëtan Roussel. Et là aussi, je pense qu'il va se passer quelque chose d'un peu particulier, parce que accueillir deux débuts de tournée pour un début de saison, on n'a pas fait exprès, ni les uns ni les autres, mais ça va rajouter un peu de piment.
Ça veut dire que Gaëtan Roussel va faire le début de sa tournée au Chab, en fait.
Ouais.
Il commence par le Chab.
Ouais.
Donc le Chabada n'a rien perdu de sa superbe, en fait, de sa splendide.
Oh, c'est très gentil de dire ça, mais il y a un secret à ça.
Est-ce qu'on peut l'avoir, ce secret?
Ouais, c'est assez drôle parce que justement j'en parlais avec l'agente de Gaëtan Roussel il y a quelques semaines, parce que la situation du Chabalet est un peu, effectivement t'as raison de le signaler, on a que 900 places, c'est petit aujourd'hui à Angers, et sur l'échelle de ce qui se passe en France, on est une salle petite. Donc je disais à l'agente, écoute, je te remercie beaucoup Christelle de nous faire confiance et de nous envoyer encore des artistes qui ont le poids de Gaëtan. Elle me dit, j'ai pas le choix. Mon meilleur ami habite Bushman, et s'il n'y a pas mes artistes qui passent au Chabada, il va se fâcher. Donc moi, je suis obligé de venir bosser au Chabada. Et je trouvais ça hyper drôle. Évidemment, c'est sans doute vrai, mais c'est aussi une blague. Mais voilà, je trouve que c'était. Voilà. Donc grâce à quelqu'un qui habite Bushman, on peut avoir des concerts de cette qualité-là. Enfin, en tout cas, ceux de l'écurie de Corrida, qui est la maison de booking de Gaëtan Roussel. Donc c'est assez amusant.
Et d'ailleurs, Gaëtan Roussel, puis on conclura là-dessus pour ce volet un peu reprise, émotion et tout le monde content. C'est pas la première fois qu'il vient, ça fait.
Alors, je serais bien incapable de te dire depuis combien de fois il est venu, en solo ou avec Louise Attaque. On doit frôler les 8-10 fois, un truc comme ça.
Je crois
ça.
Que tu disais que c'est celui qui est le plus souvent venu.
Je sais, ça commence à faire beaucoup pour certains qui ont déjà plus de 30 ans de carrière. Plus de 30 ans. Ouais, c'est pas loin d'être ça pour Louise Attaque.
Oh oui, au moins, oui.
Ils ont démarré dans le club. Leur premier concert, ça a eu lieu dans le club au Chabada au milieu des années 90.
Alors, Louise Attaque.
Louise Attaque.
Le premier concert de Louise Attaque, c'était au club du Chabada.
Ouais.
D'accord.
Ouais, ouais.
C'est un scoop que pour moi ou du coup.
Ah, non,
là,
non,
c'est
non,
vraiment...
bah non, parce qu'il y avait, quand même 250 personnes qui devaient être là. Donc, non, le tout premier, et ils sont revenus régulièrement. Et quand Gaëtan Roussel a entamé sa carrière solo, il est aussi venu régulièrement au Chabada. Là, ça, en solo, ça va être la deuxième, troisième fois qu'il vient. Je sais plus trop, on oublie au fil du temps. Mais...
Bon, on va quand même donner les dates par principe, mais c'est complet. De toute
oui,
manière.
Gaëtan Roussel, c'est complet. C'est vendredi soir. Vendredi, on sera le 6.
6, ouais, ça va être ça.
Et c'est complet. Ouais, c'est complet.
C'est complet. Alors, on va reparler de la programmation dans quelques instants, puisque c'est quand même ton rôle. Je rappelle que tu es le programmateur musical du Chabada. Le nouveau projet artistique et culturel 2021-2023 au Chab, il ressemble à quoi?
Alors, je suis pas le mieux placé, c'est plutôt Mélanie Alétru, la co-directrice en charge du projet artistique et culturel, qui serait la plus à même et la plus compétente pour en parler. C'est le projet, c'est de continuer de faire ce qu'on fait et de le faire toujours mieux, en y ajoutant des dimensions particulières de notre époque, un regard très attentif sur la parité homme-femme et tous ses corollaires. Et aussi évidemment faire gaffe à l'écologie, l'environnement, comment travailler en étant le moins polluant possible. Je résume parce que c'est des axes dont on va beaucoup parler dans les mois à venir, élections oblige, mais effectivement la parité et l'écologie sont des choses qu'on a rajoutées à notre projet.
Et du coup, toujours la volonté de mettre en œuvre la créativité, de favoriser, d'accompagner les jeunes artistes, d'instiguer des événements pour... je sais que t'es pas le mieux placé pour en parler, mais bon, bah, tu es là.
Si, là, je suis un peu mieux, parce que c'est, pour moi, c'est l'ADN du Shabada d'être là. Enfin, on a toujours eu des axes assez importants, c'est-à-dire de favoriser la scène locale dans la mesure où elle était de qualité, et à Angers, on a une scène locale de très grande qualité. Je dis ça parce que il suffit pas d'être angevin pour jouer au Shabada, il suffit d'être angevin et d'être un bon musicien pour jouer au Shabada. C'est pas une scène ouverte. Voilà, on est sélectif, on fait attention pour proposer des très beaux spectacles aux angevins. Donc ça, c'est un truc qui est important, d'accompagner les musiciens, les locaux de répétition, les résidences, les ouvertures qu'on peut leur proposer sur la programmation aussi, évidemment. Ça, c'est important. La découverte aussi, donc la découverte au-delà de la découverte locale, la découverte nationale, internationale, les nouveaux courants musicaux, tout ça, c'est des choses qui sont ont toujours été dans l'ADN du Shabada et qu'on réaffirme une fois plus, parce qu'il est toujours bon de réaffirmer ses fondamentaux.
Et ça reste, et ça nous fait plaisir, et tant mieux, puisque comme tu dis, c'est l'ADN du Shabada et on veut conserver cet ADN. Alors, une ADN, je ne sais plus si c'est féminin.
Ouais, je sais pas. Aujourd'hui,
on va laisser ça.
L'ADN du Shabada.
L'ADN du Shabada, un petit peu revisité, rafraîchi quand même avec l'identité graphique qui a été revue avec l'artiste angevin Pilou.
Oui.
T'en penses quoi, toi?
Je pense qu'il était... Alors, pas le temps de changer, parce que Jeff faisait du très beau travail, le précédent infographiste qu'on avait. Mais je trouve ça bien de renouveler les visuels, c'est très bien. Et pour l'instant, le travail de Pilou est plutôt réussi.
Et ouais. La petite particularité, c'est ces fameux 7 plaisirs capitaux. Ouais. Alors, je les ai plus en tête, je sais pas si tu les as aussi.
Alors, non, moi non plus. Ça, c'est un concept marketing, attention, hein, moi, c'est la com hein, qui a décidé ça.
En tout cas.
Ouais. Moi, je me souviens que de la gourmandise, mais c'est pas dans le truc du Shabada, c'est le truc
la rêverie concerne... aussi. Il y a quelque chose comme ça.
Ouais, je sais plus.
Je le mettrai dans le podcast de l'émission.
Je les ai plus en tête, mais
en tout cas,
tout pour être bien, quoi.
Oui, c'est ça. Ouais, pour faire la fête, pour revivre à nouveau, du coup.
C'est ça.
En tout cas, ils sont sympas. Moi, j'aime bien l'identité graphique, ouais. Les visuels, ils sont cool. Petite question comme ça, je me la pose. Le Shabada, il va changer ou pas le logo? Parce que justement, ça a été aussi un peu revisité, le visuel, le Shabada, mais le logo, il me semble qu'il reste toujours identique.
Alors, il a bougé quand même. Ouais, montre-le-moi, parce qu'à force de le voir. Ouais, il a un peu bougé, mais pas tant que ça. Là, en bas, là, il a pas bougé. En haut, il a un peu bougé, le souligné, les petits éclairs dans les A. Ça, c'est une nouveauté de Pilou. Là aussi, je suis pas le plus compétent puisque c'est Séverine Delalle qui pourrait répondre bien mieux à ma place, la directrice de la communication. On est toujours sur le blanc sur fond rouge, ça c'est sûr, puisque c'est au fronton du Shabada, donc on va rester là-dessus encore. Avec effectivement, tu l'as remarqué, quelques variantes. On est un peu moins rond et un peu plus anguleux, mais.
Il y a deux identités, il y en a une qui est institutionnelle et l'autre qui est un petit peu plus contextuelle peut-être.
Oui, il doit y avoir pour partie là-dessus.
Ok, ça marche. Bon, Stéphane Martin, tu restes avec nous. Évidemment, on va sur une première pause musicale, on va écouter un groupe, un duo que tu connais bien, Kiss Doom Fate.
Ah oui.
Alors j'ai plus le titre en tête, mais on va écouter ça tout de suite et on te retrouve tout à l'heure pour parler programmation cette fois et quelques nouveautés à venir aussi au Shabada. We'll be right back.
from the dark air.
C'était Kiss Doom Fate Dark Age, c'est ça?
Ah oui, je sais pas.
Si je prononce bien le nom du groupe.
Ah, Kiss Doom Fate, ouais, ça va bien.
Ouais. Ouais,
Kiss Doom... Dark Age aussi, hein, tu prononçais très très bien.
Dark Age, merci. J'ai eu beaucoup de remarques négatives par rapport à mon accent anglais dans cette émission. Donc...
Comme les gens sont méchants.
Oui, les gens sont.
Hein, voilà.
Ils sont horribles.
Alors qu'un léger accent français sur de l'anglais, ça a beaucoup de charme, je trouve, mais bon.
Je penserai à toi la prochaine fois que je prononcerai un mot anglais. Du coup, Stéphane Martin, donc programmateur du Shabada, par rapport à la prog, particularité cette année quand même, pas de papier.
Non, pas de papier, puisque les événements, disons qu'il y a un petit peu contrarié notre travail à tous, et là, le tous en blog évidemment toute la planète. Voilà, on a été allé, comme on n'est pas sûr de faire ce qu'on va faire, si on fixait dans le papier des choses qu'elle n'allait pas se faire, comme annoncer des concerts qui pourraient être annulés si.
Si c'est annulé.
Si. Oui. Voilà, je ne sais pas ce qui peut se passer, mais donc on a joué la sûreté, et en tout cas, il n'y aura pas de support papier jusqu'à la fin de cette année. Peut-être si les nuages se dissipent, on le repensera pour début 22 ou courant 22, mais on reviendra
prudents.
Au papier.
Ouais, restons prudents pour l'instant, et le papier quand on sera certain.
Mais il reviendra, parce que même si on peut se dire que, et c'est une question qu'on s'est posée depuis une douzaine d'années, est-ce que le papier a encore de l'intérêt aujourd'hui ? Eh ben oui, ça a encore de l'intérêt. Il y a encore des gens qui sont attentifs au papier, qui sont pour qui c'est le programme, le flyer, le tract sont des bons moyens de communication, et que le net est pas forcément ne résout pas tous les problèmes et ne répond pas toutes les questions.
Alors pas de papier et demi-prog pour l'instant. C'est annoncé jusqu'en décembre, j'ai pas la suite du programme en tout cas.
Alors non, on n'est pas sur une demi-prog, parce qu'en fait, à l'accoutumée, nous on sort un programme par trimestre.
Okay.
Automne, hiver, printemps. Donc là, on a le programme de l'automne qui peut être encore aménagé. Il peut y avoir encore des choses qui peuvent se rajouter, puisque on l'a construit en fonction de l'actualité sanitaire. C'est pour ça qu'on a rajouté deux dates dont je sais nous allons parler dans quelques instants.
Ah ben si j'oublie d'en parler, n'hésite pas. Hein. Surtout, tu me relances.
Je n'y manquerai pas. Elles sont importantes. Donc là, on est bien sur décembre. Il y aura sur décembre, on refera. Il y a des choses qui sont déjà en vente et déjà annoncées sur janvier, février et même mars, hein. Le concert de la femme, le concert de Morshiba qui sont déjà en vente notamment, mais il y aura une nouvelle communication sans doute autour du mois de novembre pour annoncer les dates de début d'année 22.
Alors de toute manière, sur ce trimestre, pour l'instant Clara Luciani c'est complet, Gaëtan Roussel c'est pareil, c'est complet, Gaël Faye également. Qu'est-ce qui n'est pas complet et qui peut être intéressant?
Alors bon, alors, il y a l'autre jeu qui n'est pas encore complet et qui serait intéressant, évidemment, puisqu'il n'y a pas eu vraiment de concert pour la sortie de l'album l'an dernier, Trans de Papier. Donc, même s'il y a eu ce live stream qu'on a fait avec France 3. Donc là, ça c'est bien, là, ça c'est intéressant. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Kiss Doom Fate.
Kiss Doom Fate avec Aaron, ou Aaron, comme diraient ceux qui ont un accent anglais. Aaron, concert qu'on reporte pour le cinquième report malheureusement, et aussi pour les Kiss Doom Fate qui depuis le début sont prévus en première partie. Voilà, ça c'est intéressant. C'est vrai que ces concerts qu'on traîne, non, on les traîne pas, mais qui sont repoussés depuis le printemps 20, c'est un peu difficile de retrouver un peu d'énergie pour en parler, je dois bien le reconnaître.
Et justement, je me pose la question, toi en tant que programmateur, comment tu jongles, comment tu t'organises entre la nécessité de programmer des nouvelles dates, des nouveaux concerts, des nouveaux groupes, et de reprogrammer peut-être aussi des concerts qu'on a pas envie de passer outre en fait?
C'est difficile d'en parler, parce que c'est vraiment ça a été ces derniers mois, ces dernières semaines, ça a été le gros challenge. challenge, ça fait un... Mais voilà, c'était le quotidien. Ouais. Ça a été le quotidien de bien se prendre la tête pour savoir ça, ok, c'est reporté. Donc du coup, ça va jouer là. On est sûr que ça va jouer là. Et puis on rajoute des trucs. Donc c'est travailler sans savoir si ça va vraiment avoir lieu. Ça a été un, voilà, ça, mais ça a été le cas pour beaucoup de professions depuis un an et demi. C'est pas cool en fait.
Ouais, bah c'est oui, c'est dans l'ADN d'un programmateur, c'est pas comme ça qu'on voit les choses.
Non. Alors c'est bien, moi j'aime bien être bousculé dans mon travail, mais là franchement là ouais, ça va, je m'en serais bien passé.
Bah tu sais quoi, on va même pas parler du pass sanitaire. Je pense que les gens ils iront sur le site internet, c'est indiqué,
ils le savent maintenant.
Le pass sanitaire, les conditions, les jauges et tout ça. Les deux dates, tu veux peut-être en parler maintenant ?
J'y tiens tout particulièrement. Et donc, il y a la date de mercredi 6.
Mercredi 6 octobre.
Mercredi 6 octobre 2021, où on accueille un truc que je voulais faire depuis longtemps. Alors, c'est peut-être pas la meilleure période pour lancer une opération comme celle-ci. C'est un concert littéraire.
D'accord.
Il y en aura un second la semaine prochaine. Donc là, on a un ouvrage,
livre.
Le livre de Joseph Pontus qui s'appelle À la ligne. Est-ce un roman? Est-ce un document? Est-ce de la poésie? Je ne sais pas. En tout cas, c'est tout ça à la fois et c'est pour moi un bouquin qui m'a beaucoup marqué. Mais c'est pas pour ça que je le programme. C'est la mise en musique de ce livre par Michel Clou et ses camarades. Michel Clou, je fais une petite parenthèse, c'est un activiste de la scène alternative française depuis près de 30 ans avec des groupes comme Diabologum ou Expérience qui ont marqué leur période. Beaucoup de guitares bruyantes. Pas forcément beaucoup de mélodies, mais quelque part quand même un peu. Et donc Michel Clou a mis en musique les textes de Joseph Pontus. Alors, il va pas les chanter, il va les dire, mais il y a une illustration sonore là-dessus. C'est un truc un peu particulier.
Et puis un livre, il y a beaucoup de pages, il va...
Alors, j'ai pas vu le spectacle, hein. J'ai pas eu le temps de le voir, je pense qu'on en aura que des extraits, on n'aura pas l'intégralité du show, enfin du livre, mais des passages marquants que Clou va mettre en exergue. C'est une expérience hyper intéressante. Alors, au-delà du fait que ce soit un bouquin qui, à titre personnel, m'a beaucoup marqué, qui est intense sur le travail en usine et l'aliénation qui en découle, voilà, le rapport musique-littérature, c'est passionnant. Et là, il y a des choses qui se mettent en place et je trouve ça intéressant de les proposer au public. Voilà. Donc, c'est probablement parce qu'on a, du coup, on n'a pas bien bossé la com, on a démarré un peu tard avec tous les aléas de ces dernières semaines.
Donc, on en profite pour rappeler, c'est mercredi 6 octobre.
Ouais.
À quelle heure tu allais en
20h30 et ça va être 12€ en réservation. C'est ça, 12€ en réservation, 15€ sur place. Alors, pour ceux qui aiment la musique bruyante, ils vont être servis. Pour ceux qui aiment les beaux textes, ils vont être servis. Et ceux qui aiment la littérature et la musique, là, ils devraient être comblés, à mon sens.
Donc, tout le monde va être servi, en fait.
Voilà. Alors, je sais que ça, bon, pour l'instant, on a très peu de réservations, faut bien le reconnaître. On en a une vingtaine, guère plus. Bon, on s'attend pas à remplir la grande salle du Chabala avec ce show. Mais c'est une expérience. Voilà. Pardon, tu disais.
Non, vas-y, ouais, c'est.
On l'amène peut-être pas au meilleur moment, mais en tout cas, il fallait le faire. Et la semaine prochaine, on fait une autre forme de concert littéraire. On les appelle comme ça. On accueille la Maison Tellier. Maison Tellier qu'on connaît bien, ce groupe de rock folk français qu'on a accueilli au Chabala depuis une dizaine d'années. Ils se sont retrouvés, les deux fondateurs du groupe, les deux guitaristes chanteurs, et à travers de la littérature de Maupassant, la Maison Tellier. J'espère que vos souvenirs de classe de première vous reviennent. On est bien.
Oui.
Oui.
Oui, oui.
Oui, oui.
Donc, c'était pas très bon en français. Hein.
Maupassant est donc l'auteur de la Maison Tellier, la nouvelle dont les garçons.
Ok, d'accord.
Les garçons ont pris comme nom de groupe. En plus, ils sont normands. Maupassant était normand. Souvent, les nouvelles de Maupassant et les romans ont lieu en Normandie.
Oui.
Bref, tout se tient. Donc, Yannick et Sébastien vont raconter l'histoire de la Maison Tellier tout en la reliant à leur passion pour la littérature et la littérature de la fin du 19e siècle. Donc il n'y aura pas que Maupassant, il y aura aussi Nietzsche, je crois, qui sera évoqué. Enfin voilà, c'est une errance littéraire sur la musique de la Maison Tellier en revenant à la jeunesse du groupe. Voilà. Et tout ça illustré de chansons jouées en duo du groupe et des reprises qui vont de Paul Simon à Rage Against the Machine.
Tout simplement.
Voilà. Et là aussi, c'est une autre forme de concert, un peu théâtralisé, mais néanmoins, qui reste dans nos lignes.
Et du coup, la date?
C'est donc
Mercredi, alors,
c'est la semaine prochaine.
C'est
le 15 octobre. Jeudi 15 octobre.
Jeudi 14.
Jeudi 14 octobre. Merci. Ouais.
À quelle heure?
20h30.
20h30 au Shabada, 12 euros aussi en réservation.
Alors non, là c'est non. Un poil plus cher, c'est 15 euros.
15 euros, tout voilà. Pile. Et réservation conseillée?
Réservation conseillée.
Fortement.
Là aussi, le public de la Maison Tellier est quand même un peu important à Angers. La dernière fois qu'ils ont joué, ils ont joué devant près de 500 personnes. Donc oui, voilà.
Ok.
On s'est réservé.
Bon, très intéressant. On pourrait vraiment s'étendre sur tous les sujets qu'on a commencé à évoquer. Et on va malheureusement manquer de temps. Du coup, pour commencer gentiment, lentement, notre conclusion avec toi, Stéphane. La suite pour le Shabada, il y a des nouveaux studios actuellement, c'est ça?
Alors, il y a depuis samedi, il y a trois nouveaux studios qui sont à côté du studio Tostaki. À côté de Tostaki, on partage maintenant une partie du local avec le CNDC.
Et du coup, l'avenir du Shabada, c'est quoi? Parce que je crois qu'il est question éventuellement de déménager dans les trois années à venir.
Alors, pour être très précis, il va y avoir une nouvelle SMAC à Angers.
Ouais, scène de musique actuelle.
Une scène de musique actuelle. Nous D'accord. sommes aujourd'hui une scène de musique actuelle. Mais comme j'ai suivi l'actualité, la presse, ça ne s'appellera peut-être pas le Shabada.
Ok.
C'est en tout cas ce que le maire a dit. Et ce ne sera peut-être pas nous qui travaillerons dedans. Donc on sait qu'on aura Angers aura une nouvelle salle.
Ah.
C'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant.
Donc affaire à suivre. Voilà, j'ai peut-être remué.
Non, pas du tout. Non, c'est juste. Parce que souvent on me dit, vous allez déménager. Non, on ne va pas déménager. Il y aura une nouvelle SMAC. Alors celle-ci n'existera plus. Le Shabada va être dévoué aux fêtes étudiantes, je crois. Enfin, je crois que c'est ce que veut la mairie. Mais effectivement, il va y avoir une nouvelle SMAC à Angers qui s'appellera peut-être pas le Shabada. Et qui sera peut-être pas dirigé par la Drama comme elle est jusqu'aujourd'hui.
Voilà, beaucoup d'incertitudes pour le coup. On aura les infos.
L'important, c'est qu'il y ait une nouvelle SMAC à Angers, c'est quand même le plus important, voilà, qui sera plus grande.
Et que le Shabada restera en place dans tous les cas, il n'y a pas de.
Ouais, enfin, s'il fait plus ce qu'il fait aujourd'hui, on s'en fout un peu du nom, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. Stéphane, je te laisse une trentaine de secondes pour conclure sur cette nouvelle saison qui fait du bien, qui démarre.
Ouais, une fois de plus, on a essayé de vous proposer de la découverte, comme ce que je citais à l'instant, c'est de concerts littéraires, des têtes d'affiches que pour certaines qui sont pas complètes, hein, encore Aaron ou Lojo ne sont pas complets pour l'instant, donc il y a encore de quoi faire, il y a encore de quoi s'amuser, et puis on va essayer de retrouver un rythme un peu normal à partir de l'an prochain, à partir de 22, en espérant que ça retrouve des rendez-vous qui nous ont un peu manqué. Il y a quelques, je pense au Total Découverte par exemple, ou des choses comme ça qu'on retrouvera peut-être.
18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît.
Il y a deux semaines, notre street artiste préféré angevin Waldo nous avait laissé avec le premier épisode du phare. Il nous dévoile aujourd'hui la deuxième partie de l'histoire de sa mosaïque implantée sur la tour Saint-Aubin. Et on a de la chance puisque ce soir, ce sera en direct.
Nous sommes nous.
Bonjour, je suis Waldo, un street artiste vivant à Angers. Sans aucune autorisation, je m'amuse à poser des mosaïques sur les murs de la ville. Lors d'une promenade dans le centre, il vous est peut-être arrivé de tomber nez à nez sur une de mes créations. Un phare, un panda ou un pélican. Chacune a son histoire. Laissez-moi donc vous la conter. Suivez-moi. Reprenons l'histoire du phare de la rue des Lys, lors de cette nuit d'été 2019. La pose était terminée et je peaufinais le travail tranquillement. Tout se passe à merveille quand dans mon dos, un homme, poliment, m'interpelle. « Bonjour monsieur, désolé de vous déranger, mais j'aimerais savoir ce que vous faites. »« Eh bien, c'est du street art, » lui répondis-je sans me retourner. « Je peux vous déranger ?» Je jette un œil en arrière, c'est un homme robuste d'une quarantaine d'années. Je reprends mon travail me disant que nous avons là un timide qui est curieux de savoir ce que je fabrique. Vous savez que c'est un édifice religieux là ? Pas tout à fait, c'est le mur juste à côté. Je vous demandais de descendre. Allons bon, me dis-je. Il rigole pas le type, ça doit être un responsable du patrimoine. Merde. Je descends et me tourne vers lui. Il est à 2 mètres de moi. Il reprend. C'est un édifice religieux. Il est important pour moi. Vous êtes en train de faire une connerie. Là,
Je constate que le gars est bien vénère. Je joue la réponse pacifique. Vous voulez dire que vous n'aimez pas ? Il avance d'un pas et se met en face de moi. Lors de son mouvement, j'ai senti une vague en moi. Mon instinct m'alerte du danger. Vous vous foutez de ma gueule ? Je vous le dis, vous faites une grosse connerie. Il est bien remonté, chaud bouillant. Il en faut peu pour qu'il me colle un pain. Vu son allure d'ours, je n'ai pas envie d'essayer. Il répète plus fort. Vous faites une grosse connerie, et maintenant, barrez-vous. J'adopte le profil bas. Tout mot de trop peut m'être fatal. Oui, d'accord, j'y vais, désolé. De toute façon, j'ai fini. Chacun part de son côté. Je retourne place Saint-Éloi, patiente quelques instants, puis pars jeter un œil rue Saint-Aubin. Je le vois, plus loin, se dirigeant vers la place Sainte-Croix. Cool, il se casse. Je reviens sur les lieux pour voir le résultat et aussi ajouter ma signature avec mon pochoir. Ah, cela fait des années que je colle des mosaïques la nuit. Des gens viennent régulièrement me parler, poser des questions, faire un commentaire. C'est sympa et très souvent positif. Mais ce soir-là, c'était une première. Un mec agressif était prêt à me frapper. J'ai quand même bien eu les chocottes. Quelle histoire. Voilà, je vous invite donc à aller voir ce phare qui aura maintenant pour vous une saveur toute particulière.
Bravo Aldo, c'était super. Moi qui ai pu entendre le podcast enregistré original, c'est mot pour mot, trait pour trait, ton pour ton, vocal pour vocal, la même chose. Alors on va passer à tout autre sujet maintenant, puisque nous allons parler philosophie avec toi, Émilie, pour le Croque Philo.
Bonsoir Pierre-Benoît.
Bonsoir.
Bonsoir et à toutes et à tous. Ravie de vous retrouver pour ce troisième rendez-vous de la saison. Aujourd'hui dans Croque Philo, on va s'intéresser à ce qui se joue derrière le terme « woke ». Depuis quelques semaines, on entend beaucoup parler dans les médias de ce terme anglais, américain, woke, qui signifie, pour faire court, éveillé en français. Alors, Pierre-Benoît, Waldo, êtes-vous woke? Êtes-vous éveillé?
Bien sûr.
Presque.
Pas tout à fait, Waldo.
En cours, c'est en cours.
Alors, je vous demande pas là si votre dernière nuit a été réparatrice ou si vous vous sentez en forme aujourd'hui, mais j'interroge votre appartenance à une idéologie militante contre les discriminations. Le terme « woke » est ancien et vient de l'argot. Il a été notamment utilisé par l'écrivain afro-américain William Cayley en 1962, en plein mouvement pour les droits civiques, qui dénonçait l'appropriation culturelle du vocabulaire des ghettos noirs par les beatniks blancs. Son usage s'est fait à plusieurs reprises dans l'histoire politique et militante afro-américaine du XXe. Et le terme désignait le fait de ne pas rester passif ou de ne pas fermer les yeux devant la ségrégation raciale vécue par les communautés noires américaines. Il s'est propagé notamment devant l'ampleur du mouvement Black Lives Matter ces dernières années et s'est ancré dans les luttes militantes plus larges, dites généralement intersectionnelles. C'est-à-dire qu'ils font converger les luttes antisexistes, antiracistes par exemple, ou qui défendent les droits des autochtones dans les Premières Nations, des personnes migrantes et ou LGBTQI+. Aujourd'hui, se demander si on est woke, c'est interroger notre conscience des inégalités, des discriminations ou des injustices vis-à-vis des minorités ethniques, de genre, religieuses ou sexuelles, et nos actions, nos usages en faveur de la lutte contre ces discriminations.
Alors, faut-il être ou ne pas être woke ?
Telle est la question. Alors, on a entendu dernièrement la secrétaire d'État à la jeunesse, Sarah El-Haïry, critiquer la pensée woke de la candidate à la primaire écologiste Sandrine Rousseau, qui viserait à chercher la différence, la blessure pour aller opposer les gens. Ou la très médiatique démission d'un professeur d'université américaine érigé par certains journaux en victime des étudiants woke qui auraient tout pouvoir sur les campus. Aujourd'hui, il semble qu'il y ait une forme de récupération politique qui oppose culturellement et idéologiquement droite et gauche autour de la culture woke. et que le courant même soit largement caricaturé à force d'être évoqué à toutes les sauces. Ce qui est reproché le plus souvent, c'est l'extrémisme des positions, un certain dogmatisme qui manquerait de rigueur politique. Le terme est maintenant péjoratif et connoterait péjorativement des pensées, des actions du spectre de la gauche.
Mais est-ce que ce ne serait pas que des mots, une forme de guerre des mots un peu creuse finalement ?
Alors être woke, c'est avant tout une prise de conscience et les actions entreprises pour éclairer les problèmes qui parfois sont invisibilisés par nos vies sociales et politiques, le plus souvent organisées autour des droits des majorités dites dominantes. Par exemple, par les hommes ou les femmes blancs hétéros. En ce sens, la connotation positive du terme et du courant wokisme en général est liée à l'histoire du militantisme politique et social dans l'action, pas seulement dans les mots, même si le sens est étendu aujourd'hui dans les usages. Mais faut-il pour autant le dénigrer ? Selon Albert Camus, il faut bien nommer les choses pour éviter le mensonge universel, c'est-à-dire pour ne pas nier notre humanité. Il faut éclairer les problèmes du monde et les actions. Nommer les choses, c'est déjà les donner à regarder, même si cela n'arrange pas notre conscience ou bouscule nos habitudes, nos traditions, nos références. Il est justement question de faire bouger le point de vue de certains sujets et non de chercher la polémique. La polémique survient justement quand on s'oppose par principe ou que l'on dénigre des pensées, des actions, des recherches parce qu'elles bousculent nos représentations. Avec ceux qui méprisent le terme « woke » et l'utilisent péjorativement, c'est la question même des valeurs qui sont contredites ou mises en cause, mais c'est surtout le détournement de pensées, d'actions qui mettent en péril l'ordre social établi en le questionnant, en interrogeant les fondements. Alors que ces détracteurs accusent justement le courant d'être dogmatique, ils réduisent sa signification dans le but de s'opposer politiquement, par principe, au wokisme. Mais on peut dire, souligner, que si les mots parfois sont fluides dans leur signification, ils semblent perdre aussi le sens à force d'usage. Il y a des doutes, il y a des écueils, il y a des remises en question sur le bien fondé de certaines luttes ou pensées, comme par exemple sur les premières nations au candidat et la place des autochtones. Il est question de reconnaître aujourd'hui l'apport des autochtones dans les institutions, mais par des méthodes qui interrogent parfois vivement. Par exemple en brûlant des livres, comme si les idées du passé pouvaient disparaître et n'étaient pas essentielles pour comprendre le monde d'aujourd'hui. On peut souligner que le wokisme, hérité des campus américains, en tant que mouvement pour aller chercher les injustices sociales là où elles sont, a pu montrer certaines dérives dogmatiques, notamment avec des excès liés à ce qu'on appelle la cancel culture, c'est-à-dire l'annulation des événements historiques tels qu'ils se sont produits pour les remplacer par des théories historiques nouvelles. On peut aussi souligner que les enjeux américains et européens, notamment en France, ne se situent pas nécessairement aux mêmes endroits de la société et ne sont pas de degrés similaires. Donc, en somme, la question ne serait pas de savoir si Sandrine Rousseau, la députée écologiste vert et woke, ou si la campagne présidentielle d'Anne Hidalgo prend ou non un virage woke, ou même s'il faut être woke ou non, et d'ajouter ainsi une étiquette au jargon médiatico-politique, mais de chercher à être conscient de nos usages, de nos valeurs, car user de notre liberté de penser et d'action, c'est justement un privilège que certains n'ont pas. Et si on peut discuter de nos valeurs, notamment en politique, on ne peut nier nos droits à les transmettre et à les incarner dans l'action, sans pour autant oublier d'interroger notre responsabilité.
Mais bien, waouh, ça... Waldo, ça va ? Tu es woke que toi ou pas ?
Ouais, je suis surtout un peu... Oui, c'est prenant, c'est fort, c'est dense.
C'est dense, ouais, t'as acquiescé, t'étais... Très beau propos, Émilie.
Ouais, oui, intéressant.
Tu voulais dire quelque chose ?
Alors, si vous voulez justement en savoir plus, parce que ça ouvre, c'est à la fois très dense et ça ouvre tout un tas de questions qui partent dans des directions très différentes les unes des autres, Il y a vraiment beaucoup d'articles du moment. Vous allez voir du Figaro au Monde en passant par Philosophie Magazine ou des émissions de radio. Énormément de médias viennent nous éclairer sur les études, les recherches sur ces questions. Et ça fait des premières entrées pour aller chercher plus loin.
En tout cas, grâce à toi, les auditeurs de Topette et de Radio G ont eu un petit éclairement, un petit éclairage déjà sur ce mouvement. Merci beaucoup, Émilie. Merci, Waldo, également. Merci, Stéphane. Merci, les collégiens du Collège Saint-Lô, 6e, classe média atelier pour une web radio. Et puis, alors c'était très bien comme émission, mais c'était mieux après, tout de suite, sur Radio G. Le podcast de notre émission est déjà disponible sur le site de la radio. Et demain, nous recevrons le collectif Angevin, organisateur des semaines d'information sur la santé mentale 49. Allez, prenez soin de vous et topette!
I saw the fire in your eyes. I saw the fire when I look into your eyes. You tell me things you wanna try. I know temptation is the devil in disguise. You risk it all to feel alive. Yeah. You're offering yourself to me like sacrifice. You said you did this all the time. It's like a dream. What she feels with me, she loves to be on the edge. Her fantasy is okay with me. Then suddenly, baby says, take my breath. Want me to hold on to your time.
Yeah, pull me close, I feel the heat between your thighs.
You're way too young to end your life.
Girl, I don't wanna be the one who pays the price.
Ooh, it's like a dream. What she feels with me, she loves to be on the edge. Her fantasy is okay with me. Then suddenly
take my breath.
Oh,
n'est pas sorti de la cuisse de Jupiter, surtout pas les sujets de ce soir. Bienvenue dans le troisième CMA. Bonjour et bienvenue dans CMA, l'émission qui remonte aux origines des choses pour mieux les comprendre et les apprécier. Allez, voici le sommaire. Alors, on commence par la fin pour découvrir le début, c'est le principe du manga et de sa chronique de ce soir. Bonsoir Mathias.
Bonsoir.
Alors, on parle de quoi ce soir ?
Ce soir, je vais vous dire d'où viennent les mangas. Et vous allez sans doute apprendre pourquoi les personnages de ces bandes dessinées japonaises ont de si grands yeux.
Ah, il y a une raison particulière. Ah
ah,
on va prendre des choses. On arrive à la mi-saison où le temps est imprévisible, d'où la problématique de comment s'habiller. Heureusement, elle a la solution. Bonsoir Caroline.
Bonsoir.
Alors on parle de quoi ce soir ?
On va parler du trench coat.
Le trench coat, c'est mode ça ?
Ah bah c'est super mode et c'est le manteau idéal pour la mi-saison.
Ouais.
Ouais.
Bon, on verra ça.
Toi-même tu sais.
Ouais. Et d'une, il est fan de cinéma. Et de deux, il revient sur Dune. Bonsoir Olivier.
Oui, bonsoir.
Film mythique ce soir alors ?
Oui, je vais vous parler d'un film Dune, mais qui n'est jamais sorti au cinéma.
Ah, oui. D'accord. Bon, on ne va pas le voir alors du coup. Pour sa chronique, c'est le secret total. Elle nous fera la surprise de son thème. Bonsoir Sonia.
Bonsoir à tous.
Donc, on ne sait pas.
Eh bien, ce soir, c'est surprise. C'est-à-dire que ça tourne autour de la musique, bien sûr. Hein, mais effectivement, saurez-vous retrouver voilà, cette chanson qui, à travers le temps, traverse voilà, chaque univers, chaque décennie et pour arriver jusqu'à aujourd'hui.
Ok, bon. Et enfin, on finira avec une touche de guimauve. Avec toi, Florian.
Oui, et ben ce soir, je vais vous parler d'un anniversaire. Parce que cette année, ce sont les 50 ans de cette célèbre confiserie proposée pour les grands et les petits, qui est donc les Chamallows. Donc restez bien à l'écoute pour suivre avec moi l'incroyable histoire de ce bonbon tout doux.
Et bien sûr, nos rendez-vous habituels avec le Graal qui répond à vos questions et Franck Coty qui traque les plagiats musicaux. Vous nous écoutez sur les 101.5 FM de Radio G à Angers ou partout dans le monde sur fréquence.com et Spotify. Bienvenue dans C'était mieux après. Alors pour débuter, voici l'expression du jour. Tomber dans les pommes. D'après vous, ça vient d'où ? Tomber dans les pommes. Ah. Une histoire
c'est une histoire de quelqu'un qui devait ramasser des pommes.
Et qui est tombé dedans.
Il a fait un malaise et poum, il s'est assommé avec une pomme. Peut-être.
Peut-être Newton, tombé Newton, dans les pommes. Oui. Non. Pas d'idée du tout.
Pas d'idée, non.
Pas d'idée. En fait, c'est très compliqué à trouver parce que tomber dans les pommes, ça vient d'une déformation linguistique. En fait, c'est une expression du Moyen-Âge qui est tomber dans les pâmes. P A accent circonflexe M E S et en vieux français se pâmer c'est perdre connaissance et donc par déformation c'est devenu tomber dans les pommes mais ça n'a rien à voir du tout avec le fruit. Eh oui. Allez, avant de retrouver Mathias et l'origine des mangas, une reprise musicale. Nous sommes en été 1942 et Lucienne de Lille a un amour d'été qui lui inspire cette chanson.
Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux.
Vous n'entendez peut-être pas, mais il y a Florian qui chante en même temps. On l'entend chanter.
Mais parce que Patrick Bruel l'a reprise.
Eh ben oui, justement, voilà, effectivement, l'amant de Saint-Jean a été repris en quelle année ?
Non,
de Patrick Bruel.
Non, mais nous, on l'a repris bien avant, dans les banquets, les bals.
Ah oui,
bonnes,
ça c'est sûr, c'est vrai.
Patrick Bruel, c'est du réchauffé, excusez-moi.
Bon, je m'en vais, c'est
pas. Ah oui, les fans de Patrick Bruel. Et ben, ça donnait ça.
Je ne sais pourquoi elle allait danser à Saint-Jean, aux musettes. Mais quand ce gars lui a pris un baiser, elle frissonnait, était chippée. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Elle qui l'aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Elle restait grisée, sans volonté, sous ses baisers. Sans plus réfléchir, elle lui donnait le meilleur de son être.